Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons voir aujourd'hui ce qu'est le caractère dans le sacrement et nous allons découvrir des choses très belles par rapport au culte que nous rendons à Dieu avec le Christ. Il y aura donc quatre parties dans ce sermon. Pourquoi le caractère, ce qu'il est. Deuxièmement, l'importance du culte rendu à Dieu. Troisièmement, le sacerdoce des fidèles. Et quatrièmement, le contraire du caractère, c'est-à-dire le signe ou le caractère de la bête, du démon. Pourquoi le caractère est ce qu'il est ? Saint Thomas nous dit que le fidèle est député à deux choses. À titre principal, en premier, il est député à la jouissance de la gloire, et pour cela il est marqué du sceau de la grâce. Le sceau, c'est-à-dire un signe qui marque et qui permet de reconnaître. Les anges voient la grâce et donc le sceau de la grâce dans une âme en état de grâce. C'est évidemment l'essentiel, cela. C'est le premier effet du sacrement que de nous mettre en possession de la grâce et déjà donc de nous donner un gage, c'est-à-dire une première possession de la gloire. En deuxième lieu, le fidèle est député au culte de Dieu, soit en donnant les richesses du culte, soit en recevant, en participant au culte. Et pour cela, il faut un signe particulier, et ce signe est le caractère. Prenons un exemple. Le baptême de désir est une effusion de la grâce par le Saint-Esprit. Celui qui a vraiment, avec la contrition, le baptême de désir, entre dans la société des amis de Dieu. Il est connu comme tel par les anges, il est donc marqué par la grâce, mais il n'entre pas dans la société qu'est l'Église, qui est députée au culte. Il n'est pas marqué pour le culte et il n'est pas reconnu par les hommes comme un fidèle. Un païen qui a le baptême de désir ne fait pas partie de l'Église visible, il ne rend pas un culte et il n'est pas connu par les autres comme étant celui qui rend un culte à Dieu. Et par conséquent, les sacrements qu'il recevrait, autres que le baptême, bien sûr, le baptême d'eau, les sacrements qu'il se recevrait seraient invalides parce qu'il n'a pas la capacité de les recevoir. On trouve cela dans le principe et fondement de saint Ignace. L'homme a été créé pour honorer, louer, servir Dieu et par ce moyen sauver son âme. Sauver son âme, c'est la jouissance de la gloire. Honorer, louer, servir Dieu, c'est le culte. Surtout, louer Dieu. Pourquoi faut-il alors un caractère ? Il faut un caractère parce que on ne peut pas assumer une fonction officielle sans être marqué pour cela. Un maire a une écharpe, un député a une écharpe, un juge a une toge, un gendarme a un uniforme, etc., etc., qui sont des signes extérieurs, ça. À Rome, autrefois, les soldats étaient marqués, tatoués, comme appartenant à l'armée régulière, et ça permettait de les distinguer de ceux des ennemis. Pour exercer le culte, il faut donc, en plus de la grâce, en plus de l'amitié avec Dieu, ça c'est ce qui va rendre le culte agréable. Mais ce n'est pas ce qui permet d'y participer. Ce qui permet d'y participer, c'est nécessairement un pouvoir donné par Dieu, et c'est la caractéristique du caractère que, premièrement, il nous marque, et il nous désigne comme membres de l'Église qui rendent un culte à Dieu, et deuxièmement, il nous donne une puissance, une capacité à participer au culte. Et nous arrivons là à la deuxième partie de ce sermon, l'importance du culte rendu à Dieu. Pour bien voir cette importance, il faut nous rappeler que le Christ est le grand prêtre éternel incarné qui, sur terre, a rendu le culte parfait à Dieu, et c'est comme cela d'ailleurs qu'il a réconcilié les hommes avec Dieu. La grande mission du Christ, à supposer qu'il n'ait pas sauvé les hommes, supposition complètement fausse, puisque nous savons que le Christ est venu sur terre pour sauver les hommes. Mais à supposer qu'il n'ait pas sauvé les hommes, qu'aurait fait le Christ? Il aurait honoré son Père. Il aurait constamment honoré son Père par un culte intérieur d'abord, et qui s'achève dans le sacrifice de la croix, qui est le sacrifice parfait, qui rend le culte parfait à son Père, puisque tout est offert à Dieu le Père, toute la création, à travers le Christ lui-même, son corps, son âme, sa volonté, tout, il offre tout à son Père. Il est évident que le chrétien ne va pas se contenter d'entrer au ciel avec le Christ, il va évidemment s'associer à cette action merveilleuse du Christ. Le Christ aurait pu le tenir à l'écart, en lui disant « c'est déjà bien que tu sois sauvé », mais le Christ est tellement bon, Dieu est tellement bon, il nous associe. Parce que, rappelez-vous que le chrétien est un autre Christ, c'est pour ça d'ailleurs qu'il porte le titre de chrétien. On dit souvent « le prêtre est un autre Christ ». La phrase d'origine dans saint Augustin, c'est « Christianus alter Christus », le chrétien est un autre Christ, chrétien Christ. Et par conséquent, nous sommes associés à toute l'action du Fils sur la terre, à toute l'action de Jésus-Christ, et la première action de Jésus-Christ, c'est d'avoir rendu un culte à Dieu. Comment Jésus-Christ va-t-il associer les fidèles à son culte? Il va le faire de deux façons. D'une part, en députant les prêtres et les évêques, à donner aux autres le culte et les sacrements qui font entrer dans le culte. Deuxièmement, il députe les chrétiens à participer à ce culte, principalement en recevant les sacrements, mais pas seulement, nous allons le voir. Et puis vous avez le sacrement de confirmation qui vient compléter, mais nous verrons cela en son temps. Vous allez donc avoir trois sacrements qui donnent un caractère, le sacrement de l'ordre pour donner, pour transmettre le culte, le sacrement de baptême, pour participer en tant que fidèle, et puis le sacrement de confirmation, je vous ai dit que nous verrions plus tard. Or, saint Thomas nous dit, « Ceux qui sont députés au culte chrétien, donc les prêtres et les fidèles, dont le souverain est le Christ, » ça c'est très beau, vous voyez, « le Christ roi, le Christ souverain, » qui rend un culte à Dieu son Père. Ceux qui sont députés au culte chrétien, dont le souverain est le Christ, reçoivent un caractère qui les configure au Christ, c'est-à-dire qui les rend semblables au Christ. C'est donc un caractère qui vient directement du Christ. Et nous sommes donc doublement ressemblants au Christ. Premièrement par la grâce, qui fait de nous les fils de Dieu. Deuxièmement par le caractère du baptême, de la confirmation et pour les prêtres de l'ordre, qui nous fait ressembler à Jésus-Christ lorsqu'il offre son sacrifice, et pas seulement ressembler quand il offre, mais participer à l'offrande de ce sacrifice. Troisième partie de ce sermon, le sacerdoce des fidèles. Lorsque nous étudierons le sacrement de l'ordre, nous verrons le caractère de l'ordre, le caractère du prêtre, et nous verrons quelles en sont les merveilles. Aujourd'hui, je veux vous parler principalement du caractère du baptême. C'est une chose qui a été peut-être un peu oubliée, que le Concile Vatican II a voulu remettre en honneur. Mais vous savez comment s'est passé le Concile Vatican II? Vous avez des bons chrétiens qui voulaient remettre en honneur certains aspects qu'on avait peut-être oubliés ou qui étaient passés au second plan. Et vous avez des traîtres, des novateurs, qui ont profité de ces bonnes dispositions de bons évêques et de bons chrétiens pour saisir l'occasion de remettre ces choses-là en valeur, mais les tordre. Et vous avez cela avec le sacerdoce des fidèles. Saint Pierre nous dit en effet, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Avant Vatican II, cette doctrine était parfaitement connue, la preuve, je vous tire cela de saint Thomas d'Aquin. On veillait essentiellement à faire vivre les fidèles dans ce sacerdoce, dans le culte. On ne leur expliquait peut-être pas tout, mais n'empêche que les fidèles participaient au culte de Dieu, et ils y participaient bien, et ils y participaient de tout leur cœur. La preuve, ils participaient aux vêpres le dimanche après-midi. C'était très courant de participer aux vêpres, et à beaucoup d'autres actions liturgiques. Le Concile Vatican II a voulu remettre cela en honneur, et à jouer sur le mot sacerdoce pour établir une confusion entre le sacerdoce des fidèles, qui est un sacerdoce dans lequel on participe à sa place, confusion avec le sacerdoce du prêtre, qui lui donne les richesses, alors que le fidèle ne peut pas les donner. La transmission du baptême est un cas tout à fait exceptionnel, puisque même un païen peut baptiser, même s'il n'a pas la foi. Ça, c'est tout à fait exceptionnel pour faciliter le salut des hommes. Vatican II a joué là-dessus, sur cette confusion. Et alors, du coup, il est allé loin, 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 le plus loin possible. Vous voyez dans le code de droit canonique que les fidèles passent avant les prêtres. Vous voyez une confusion complète avec l'utilisation des termes « peuple de Dieu ». On ne sait plus quelle est la place de la hiérarchie, et vous avez le cardinal Ratzinger, le bon cardinal Ratzinger, soi-disant traditionnaliste, hein, qui est devenu Benoît XVI, qui dit « il y a des emplois à temps partiel dans l'Église, pourquoi le sacerdoce ne serait-il pas à temps partiel ?» Il ne dit pas « exercer à temps partiel ». Pourquoi ne serait-on pas prêtre? Parce que pour lui, le sacerdoce est une relation, une simple relation. C'est-à-dire un concept de relation même. Un concept, c'est pas grand-chose, une relation, c'est ce qu'il y a de plus ténu dans l'être. Un concept de relation, c'est vraiment deux fois rien, une dénomination extrinsèque, ou une appellation, on est prêtre parce que les gens vous appellent prêtre. Autrement dit, pour Benoît XVI, lorsqu'il était le cardinal Ratzinger, le prêtre n'est rien de plus qu'un pasteur protestant, et encore un vague pasteur protestant. Eh oui, parce qu'on a tellement assisté sur le sacerdoce des fidèles qu'on n'a plus besoin de prêtres. Alors revenons à la vraie notion du sacerdoce des fidèles. Mais bien, chers frères, vous qui m'écoutez, bon, il y a peut-être des prêtres qui m'écoutent, mais les fidèles principalement. Par le caractère du baptême, tout d'abord, vous participez au culte en recevant les sacrements qui sont une manière d'honorer Dieu. C'est pour ça, je vous l'ai dit déjà, qu'on n'a pas le droit de recevoir des sacrements hérétiques, même s'ils sont valides, des sacrements schismatiques, même s'ils sont valides, des sacrements avec des gens qui déshonorent Dieu. Vous n'avez pas le droit de communier à une messe noire, vous n'avez pas le droit de participer à la messe avec des gens qui sont ouvertement séparés de l'Église. Et c'est pour ça que Mgr Lefebvre disait qu'on n'avait pas le droit de participer à la messe moderne, d'abord principalement parce qu'on met sa foi en danger, et puis parce qu'on on participe à un culte faussé. Et donc, par le caractère du sacrement de baptême, vous participez au culte. Quelle est la conséquence? Vous en avez deux. La première, c'est que vous pouvez vous offrir en même temps que le Christ s'offre à la croix. Voilà, c'est le symbolisme de la goutte d'eau qui est mise dans le calice par le prêtre à l'offertoire. Cette goutte d'eau est dissoute, elle est perdue dans le vin. Lorsque le vin est consacré et devient le sang de Jésus-Christ, la goutte d'eau est devenue le sang de Jésus-Christ et c'est le symbole, au moment de l'offertoire, c'est le symbole des fidèles qui s'offrent à Dieu avec le Christ. Vous pouvez donc vous offrir. Offrir votre vie, offrir votre cœur, votre volonté, pouvez vous offrir. Et de fait, ça compte énormément, parce que vous passez votre temps dans la vie chrétienne à offrir vos sacrifices. Notre Seigneur dit, celui qui veut venir à ma suite, qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix chaque jour, mais à chaque jour, en portant votre croix, vous vous offrez à Dieu le Père, avec le Christ, et pour cela, vous exercez votre sacerdoce royal, votre sacerdoce de fidèle, qui ne vous permet pas de consacrer le Saint-Sacrement, mais qui permet véritablement de vous offrir, et cette offrande est véritablement agréée de Dieu, puisque le prêtre dit à la messe, « Priez mes frères pour que ce sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu. » Pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, « Orate fratres ut meum sacrificium, mon sacrifice. » Le meum et vestrum sacrificium et le vôtre en même temps, acceptabile fiat, soit agréable à Dieu. Deuxièmement, d'une certaine manière, vous allez pouvoir offrir le Christ. Évidemment, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, d'une certaine manière. Voici ce qui a été dicté aux enfants de Fatima par le ciel. Ça n'est pas la révélation, mais enfin quand même, cela vient du ciel. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément. Et je vous offre quoi? Je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles de la terre. Je vous les offre en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Vous voyez bien que, d'une certaine manière, vous offrez notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'offrez un peu comme la Sainte Vierge, moins qu'elle. Non, la Sainte Vierge n'était pas prêtre. La Sainte Vierge dit à Dieu le Père, « Ce Fils que vous m'avez donné, je vous le rends, je vous le donne, pour qu'il s'offre lui-même. » Il est évident que la Sainte Vierge ne peut pas offrir le Christ si le Christ ne s'offre pas. Donc elle n'est pas prêtre. Il est évident que nous ne pouvons pas offrir le Christ si le Christ ne s'offre pas. Enfin, nous, je veux dire les simples fidèles. Parce que vous n'êtes pas prêtre. Et pourtant, dès que le Christ s'offre, vous pouvez, vous aussi, vous associer à son offrande, pas seulement pour le recevoir, mais pour l'offrir à Dieu le Père. Et cette offrande de toute l'Église, le culte rendu par l'Église, voilà la grande force de l'Église. Et vous pouvez l'offrir pour le salut des pécheurs. Vous pouvez l'offrir pour la gloire de Dieu. Vous pouvez l'offrir à toutes les intentions qui sont celles du Notre Père, pour que son nom soit sanctifié, pour que son règne arrive, pour que sa volonté soit faite, pour que les chrétiens soient secourus, pour que les péchés soient pardonnés, pour que nous soyons préservés du mal. Ou comme la demande la Très Sainte Vierge à Fatima, pour la conversion des pécheurs, pour le salut des vôtres, pour ceux que vous aimez, pour vous-même. Et ce sacrifice est agréable à Dieu. Dernier. Alors, un petit point, le caractère ne peut pas être perdu, parce qu'une fois qu'on est marqué, oui, on est définitivement marqué, parce que c'est on est associé au Christ. La grâce, elle peut être perdue, parce que elle est plus une question d'amitié. Ce qui fait qu'un mauvais prêtre reste prêtre. Et hélas, voyez, il peut y avoir des mauvais prêtres. Dernier point de ce sermon, le contraire du signe. Le démon va singer le Dieu. Il veut faire le contraire de Dieu. Et il veut marquer ses fidèles. Or, vous avez des fidèles du démon. Il est évident que l'avancement actuel de la révolution ne serait pas possible sans, et depuis toujours, depuis 2000 ans que le démon est à l'œuvre, sans une action profonde du démon qui a marqué ses collaborateurs. Et il les marque deux fois. Il les marque par rapport à la grâce, lorsqu'il les met dans une malice obstinée, qui les destine à la peine éternelle. Cette malice obstinée, qui est comme une marque, vous voyez, une marque du démon, on remarque, on voit, on constate, même extérieurement, des visages marqués par le démon. Monseigneur Lefebvre nous disait qu'il constatait ça en Afrique. Ceux qui étaient marqués par les sorciers, parce qu'ils avaient été sous l'influence des sorciers, étaient comme marqués extérieurement. Et dès qu'ils étaient baptisés, leur visage changeait. Mais vous avez plus profondément la marque de la malice. Tous ces gens qui poussent, qui provoquent au péché contre le sixième commandement, au péché de révolte, au péché de sacrilège, sont des gens qui sont marqués par le démon. Ça se voit. Ce sont des gens qui sont à lui, ça se voit. Et vous avez un deuxième signe, qui est lui par rapport au culte, et cette fois-ci le culte rendu au démon. Cela se fait par la profession d'un culte illicite. Il marque ceux qui lui rendent un culte. Mais faites bien attention, eh bien, chers frères. Il y a ceux qui lui rendent un culte expressément, avec des messes noires, avec un culte illicite. Mais même s'il n'y a pas de culte rituel, considérer le démon comme source du bien, s'associer à lui pour une action dans le monde, c'est-à-dire le considérer comme source du bien, au moins de certains biens, c'est lui rendre un culte. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui rendent un culte au démon sans lui rendre un culte rituel, mais qui lui rendent un culte parce que il l'invoque, il s'appuie sur lui, il s'appuie sur son aide pour agir. Alors Dieu nous préserve de cela. Et nous sommes dans une période apocalyptique, une lutte terrible entre le démon et Jésus-Christ, entre le démon et Dieu. Entre le démon, je vous l'ai dit, je crois, la dernière fois, le démon et toutes les œuvres de Dieu. Non, c'est pas à vous que je l'ai dit. Et nous sommes dans cette lutte apocalyptique, et c'est pourquoi je vous ai parlé du sacerdoce des fidèles. Parce que il y a deux points pratiques. Le premier, c'est ce qui vous donne cette force d'honorer Dieu face à l'honneur du démon, au faux honneur que les complices du démon lui rendent. Et puis deuxièmement, c'est ce qui vous permettra, ce sacerdoce des fidèles, ce sacerdoce royal, c'est ce qui vous permettra de continuer le culte de Dieu, même lorsque vous n'avez pas de prêtre pour vous célébrer la messe et vous donner les sacrements. Voilà pourquoi les bons fidèles ont été si sereins pendant le confinement, même sans sacrement. Que la Sainte Vierge, qui sans être prêtre, exerçait son sacerdoce de fidèle, même si c'était d'une façon suréminente, vous enseigne toutes ces choses-là, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.